c'est l'heure de Séquence Parc. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes, un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi, à 8h30.
Séquence Parc sur le 107 FM.
Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de transition énergétique et plus particulièrement d'autoconsommation collective. Pour cela, je suis en compagnie de Michel Bonnet, maire de Saint-Michel-de-Dèze et vice-président de la SAS Cévennes Durables, Jean-Luc Richter, chargé de mission transition énergétique au syndicat des Hautes-Vallées-Cévenoles, Stéphane Béraud, conseiller municipal à Florac, Julien Brinet, chargé de mission transition énergétique au Parc National, et par téléphone, nous avons Mathias Ruiz, conseiller en énergie renouvelable à la CCI de Lozère. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Et bien peut-être déjà pour commencer, que représente la production d'énergie renouvelable sur le territoire du Parc National ?
Alors à l'échelle du Parc National, on produit à peu près un quart des consommations d'énergie, équivalent de 25%. Mais c'est essentiellement aujourd'hui en fait de la chaleur produite avec du bois. En fait, c'est le chauffage traditionnel ou des chauffages plus modernes avec des plaquettes ou des pellets. Et puis l'autre gros poste aussi, c'est les pompes à chaleur qui prélèvent de la chaleur dans l'air. Après, pour ce qui est de l'électricité, le bilan est plus faible. On produit à peu près 9% de la consommation d'électricité du territoire.
Et qu'en est-il pour le solaire et l'hydroélectricité ?
Alors l'hydroélectricité, c'est une production, il y a je crois à peu près 8 centrales sur le territoire, 8 centrales hydrauliques sur le territoire du parc, c'est des toutes petites unités pour la plupart, et elles produisent relativement peu, mais c'est quand même ça, et elles ont une production qui dépend évidemment des débits, des cours d'eau, etc. Donc ça, la quantité d'électricité produite chaque année dépend un peu de la météo de l'année. Et puis pour ce qui est du solaire, c'est l'énergie qui est en croissance, vraiment. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de grandes centrales au sol qui produisent plusieurs mégawatts par an. Mais par contre, le solaire en toiture et notamment sur les grandes toitures de bâtiments agricoles, industriels, etc. se développe. Donc c'est un peu vraiment l'énergie qui a une grosse dynamique sur le territoire.
Donc ça veut dire que l'installation de panneaux solaires est compatible avec la charte du parc ?
Oui, tout à fait. Elle est compatible avec la charte du parc. Il y a simplement, pour les grandes centrales au sol, la charte explique qu'elle est exclue du cœur du bien classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'elle est incompatible avec la conservation de ces paysages. Et puis il y a également le cas particulier des maisons qui sont en cœur de parc et qui ont un caractère patrimonial, et dans ce cas effectivement on préfère éviter quand même qu'il y ait des panneaux solaires sur ces bâtiments patrimoniaux. Mais par contre, même en cœur de parc, sur des bâtiments notamment agricoles qui n'ont pas de valeur patrimoniale particulière, au contraire c'est même encouragé.
Donc comme je le disais en introduction, on va parler plus particulièrement de l'autoconsommation collective. Donc c'est un modèle énergétique où un groupe de consommateurs partage l'électricité produite par les installations photovoltaïques des producteurs, privés ou publics. Elle permet de consommer localement l'énergie produite à une distance maximale de 20 km entre les participants. Les producteurs comme les consommateurs sont raccordés au réseau public de distribution. Alors est-ce que ce modèle trouve un écho dans les Cévennes, auprès des différents publics ? Qui veut commencer à répondre ?
Alors, on peut parler effectivement du projet Cévenergy qui est porté par la SAS Cévennes Durables, qui est un collectif citoyen qui s'est monté sous forme de SAS, donc qui à l'origine voulait simplement développer des centrales photovoltaïques en vente totale. Et depuis 2023, on a commencé à réfléchir avec la mairie de Saint-Michel-de-Dèze, dont le maire est ici présent, à une centrale villageoise. Si tu veux peut-être en parler rapidement.
Oui, alors la commune de Saint-Michel est engagée dans le dispositif depuis 2011. Hein. C'est-à-dire que la première centrale qu'on a faite, elle était à la fois sur l'école et sur la salle polyvalente. Aujourd'hui, elle est divisée en deux centrales différentes, une centrale qui est en revente totale à EDF, puisqu'elle en revend 74 centimes 7 quand même, le kilowatt, et une autre qu'on vient de faire avec l'aide de l'État, qui est sur la salle polyvalente, et on est déjà en autoconsommation pour l'instant, nous-mêmes, quoi, nous, la collectivité. Voilà. Donc on avait initié un projet avec la région, à la suite de des accords qu'on avait passés entre Cévennes Durable et la région. En 2022-2023, on a répondu à un appel à la manifestation d'intérêt pour développer un nouveau système d'énergie citoyenne sur le territoire. La région a bien voulu retenir la commune de Saint-Michel-d'Aize, mais à la condition qu'elle élargisse le dispositif à d'autres collectivités. Donc on s'est rapproché à la fois du syndicat des Hautes-Vallées-Sévenoles, à la fois de la communauté de communes des Cévennes et du Mont-Lozère, et puis on en a parlé avec le PETR, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'opération qu'on a transformée, qui n'est plus Saint-Michel-d'Aize, mais qui s'appelle Cévennes Énergie, porte sur un périmètre très élargi, parce que c'est tout le territoire du syndicat des Hautes-Vallées-Sévenoles et tout le territoire des deux communautés de communes du sud de Lozère. Voilà.
Et donc là, sur ce territoire-là, donc Cévenergy, on a 5 boucles d'autoconsommation collective, puisqu'on peut aller qu'à 20 km. Donc là, on est sur un territoire qui est bien plus large que ça. Et parmi ces 5 boucles, donc les 2 boucles qui sont centrées sur la Lozère vont pouvoir démarrer normalement à l'automne. Et la particularité, là, pour rejoindre un petit peu ce que disait Julien Brinet tout à l'heure, c'est que justement, on va avoir des centrales qui sont situées hors du cœur de parc, et qui vont pouvoir alimenter, par exemple, le bar des Cévennes, qui est, lui, situé en cœur de parc, sur le territoire de l'UNESCO, et sans avoir de centrales photovoltaïques qui viennent défigurer le site, simplement en venant à distance. Et en l'occurrence, là, c'est une centrale, par exemple, qui est située au Pompidou, donc à 5-6 km de là. Et on pourrait donc aller plus loin, puisque c'est 20 km, normalement, le périmètre. Donc nos deux boucles ont chacune à peu près 120 kW de puissance si j'additionne toutes les toitures. Et ça, c'est redistribué sur à peu près 80 personnes ou collectivités qui se sont montrées intéressées et qui sont prêtes au démarrage. Et on a un potentiel d'énergie pour pouvoir alimenter encore des personnes supplémentaires. Donc là, il ne faut pas hésiter aussi, si vous êtes intéressé par le projet, nous rejoindre. On a mis en place un site internet. Donc Cévenergy, il y a un petit piège parce qu'il y a un E qui manque. Et donc sur ce site internet, on trouve toutes les informations pour pouvoir effectivement adhérer au projet, ce qui est très simple. Et l'objectif, c'est vraiment à la fois le partage, la stabilité des tarifs et aussi une démarche citoyenne en faveur de la sobriété énergétique que l'on promeut à l'intérieur de ce projet. Parce que l'objectif, c'est pas que les gens développent leur consommation, mais bien qu'ils essaient d'utiliser l'énergie lorsqu'elle est là, sans en abuser pour que tout le monde puisse en profiter.
Et il y a beaucoup de volontaires, parce que vous avez fait quand même des réunions publiques hein, un peu partout pour expliquer la démarche. Alors quels sont les retours hein,
vous voilà, à chaque réunion publique, on a une soixantaine de personnes déjà. Et puis, on a d'autres demandes. Une demande sur la Hurla Parade, par exemple, où on va développer une centrale sur l'aérodrome. Et elle permet de nous faire une boucle sur la commune uniquement de Hurla Parade et compléter, en fait, la demande en énergie de la fromagerie. Voilà. C'est un exemple très particulier, mais qui est dans le... Mm-hmm. Alors, c'est vrai que Hurla Parade n'est pas adhérent au parc, mais...
J'ai fait 30 réunions publiques déjà, et il y en a encore d'autres à venir. Voilà. Et effectivement, les gens adhèrent vraiment au projet. Alors pour l'instant, ils n'ont pas encore forcément tout signé parce qu'on est en train de définir plus précisément les tarifs d'achat et de revente. Donc tant que ça reste flou, les gens s'engagent un petit peu moins. Mais enfin, on a quand même, comme je disais, à peu près 80 compteurs qui sont inscrits dans chacune des boucles, hein, donc on est sur 160 compteurs au total, et on a aussi des compteurs sur les autres boucles qui ne sont pas encore finalisées, puisque ça nécessite bien sûr du temps, des démarches administratives pour pouvoir lancer l'ensemble du projet.
Stéphane, peut-être sur Florac également.
Alors sur Florac, le projet d'autoconsommation est venu tout d'abord de la volonté de la mairie de développer des énergies renouvelables et donc de mettre en place des panneaux solaires sur les bâtiments municipaux, notamment dans le contexte qui a suivi l'explosion des prix de l'électricité avec la guerre en Ukraine. Et donc on s'est rendu compte que dans le budget de fonctionnement de la mairie, ça avait un impact non négligeable. D'où du coup ce projet qui visait initialement à faire obtenir des économies pour la mairie sous forme d'une autoconsommation, ce qu'on appelle une autoconsommation collective patrimoniale, c'est-à-dire que l'énergie produite par une personne morale alimente les bâtiments de cette personne morale. Et puis, à la réflexion et à l'initiative aussi du parc et de notamment Julien Brinet qui a été catalyseur dans ce domaine, on s'est dit bah ça serait bien d'en faire profiter non seulement les bâtiments municipaux, mais aussi les citoyens de Florac, et donc de passer à ce qu'on appelle une autoconsommation collective étendue, c'est-à-dire qu'on n'a plus seulement une personne juridique impliquée, mais plusieurs personnes juridiques. Et donc dans ce cas-là, nous on est en train de mettre en place actuellement une boucle de 20 km sur Florac, qui va comprendre aussi bien des collectivités publiques, bien sûr Florac, mais aussi d'autres communes comme Hispaniac ou Bédouès, ou des établissements publics comme le parc, et des entrepreneurs comme l'entreprise Tuféry, ainsi que aussi éventuellement Seven Durable qui a des panneaux sur Seven Évasion, donc qui rejoint, et puis des particuliers. Donc on est en train de réfléchir exactement aux règles de priorisation, parce que bien sûr on n'aura pas forcément assez d'énergie pour fournir tout le monde, et donc il va falloir qu'on voit comment, notamment pour les particuliers, est-ce qu'on privilégie les logements sociaux ou autres. Donc ça c'est en cours de réflexion, et d'ailleurs ce soir il y a un conseil municipal qui va aussi discuter de ça, avec une présentation de Julien d'ailleurs devant l'ensemble des élus.
Voilà, oui, Julien, tu as intervenu quand même plusieurs reprises auprès des collectivités, notamment.
Oui, alors effectivement, j'essaie de suivre en tout cas les projets qui se développent dans les Cévennes. Donc sur les projets Cévenergie, donc qui couvrent beaucoup les vallées cévenoles, la vallée française, la vallée borgne, et puis jusque sur le Piémont, hein, dans le secteur d'Alès Aglo. Donc là, c'est animé par le syndicat des Hautes-Vallées Cévenoles, donc c'est un suivi assez lointain. Mais par contre, effectivement, pour Florac et pour le pont de Montvert, je me suis impliqué un peu plus directement pour aider, en fait, techniquement au montage des projets. Donc si on prend, en fait, si on regarde une carte, hein, du parc et qu'on met dessus, on juxtapose tous les périmètres de toutes les opérations, on commence à couvrir quand même une bonne partie du territoire du parc, hein, je pense à vue de nez, à 50% à peu près, sachant qu'il y a sûrement aussi des initiatives et des projets plus sur les Gouales, etc., mais qu'on n'a pas encore forcément bien identifiés. Parce que, alors, ça a beaucoup effectivement poussé là en 2022, Stéphane le disait, parce que les prix de l'électricité ont beaucoup augmenté. Donc là, il n'y avait plus seulement, on va dire, les militants de la première heure des énergies renouvelables et des projets citoyens. Ça élargit beaucoup l'intérêt pour ces projets-là. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, on a cette dynamique-là sur le territoire qui est forte et qui est aussi vraie un peu partout en France. Hein. Je crois qu'au dernier décompte, il y a 400 opérations, voire un peu plus en France, qui sont en fonctionnement.
Mathias Ruiz, donc on a parlé des collectivités, des particuliers. Qu'en est-il des entreprises? Est-ce qu'elles sont intéressées par l'autoconsommation collective?
Alors, bonjour à tous. Alors déjà, nous, on a pu constater ces dernières années, ces derniers mois, une forte demande au niveau des entreprises. Déjà, rien que pour de la prise d'informations concernant les installations photovoltaïques. Au départ, c'était plus sur des installations, on va dire, seules, donc des installations photovoltaïques individuelles. Donc, c'est quand l'entreprise possède de la toiture ou décide de créer des ombrières pour son usage personnel. Mais là, voilà, il y a des nouveaux modèles qui sont en train de se mettre en place, qu'on est en train d'évoquer, donc les modèles d'autoconsommation collective, qui sont en train d'intéresser les entreprises aussi. Donc là, voilà, notamment le projet sur Flora qui est en train d'émerger, qui va pouvoir intégrer les particuliers, les entreprises, les bâtiments publics. Donc là, voilà, c'est des projets intéressants, sachant que sur Flora, il y a, on va dire, 400 ou 500 entreprises potentielles et les alentours qui pourraient être intéressées et potentiellement intégrer ce type de boucle-là. Donc nous, on a deux phases. Donc on a une phase de conseil et de mise en relation des entreprises sur le photovoltaïque. Et après, si elles décident d'aller plus loin, on a aussi une offre à proposer aux entreprises avec un bureau d'études local sur le volet vraiment études de plans d'implantation, d'études productibles et d'études d'autoconsommation pour voir en fait ce que pourrait autoconsommer l'entreprise et ce qu'elle pourrait rejeter, qu'est-ce qu'elle pourrait redonner à la boucle d'autoconsommation qui sera déployée. Donc aujourd'hui on en est là et voilà, c'est intéressant de pouvoir connaître toutes les entreprises qui pourraient être intéressées par ce type de boucle et participer au déploiement de celle-ci voilà, sur Florac et les alentours.
Donc s'intégrer dans la boucle voilà, de Florac avec des particuliers ou alors qu'il y ait des boucles aussi spécifiques pour les entreprises, c'est possible ou pas?
Oui, toutes les organisations existent. Il y a sur certains territoires, il y a des boucles qui sont uniquement sur les zones d'activité, par exemple, où c'est les entreprises qui échangent entre elles. Des boucles avec que des particuliers ou alors que des collectivités. Mais là, en tout cas, sur Florac et sur Cévenergie, je crois que ce n'est pas du tout le choix qui a été fait. Au contraire, c'est de faire collectivement. Parce que déjà, on le disait tout à l'heure, ça crée aussi finalement un lieu de discussion et d'échange sur comment on met en application la transition énergétique à l'échelle d'un territoire. Donc ça concerne tout le monde. Et donc c'est intéressant. Et après, le fait de mélanger aussi tous les types de consommateurs, ça veut dire qu'on mélange aussi tous les profils de production. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne consomme pas tous de l'électricité au même moment. Du coup, ça permet d'optimiser la quantité d'énergie qu'on arrive à récupérer en fait, et à consommer vraiment sur place en ayant des profils différents.
Et Mathias Ruiz, est-ce que les salariés d'une entreprise pourraient profiter de ce projet?
Ben, c'est tout à fait possible. Et ce qui est intéressant avec ce type de boucle d'autoconsommation collective, c'est que tout est envisageable. Aujourd'hui, c'est en train de se déployer et on peut envisager un peu à peu près tout par rapport à ce jus qui est produit. Et je peux prendre l'exemple voilà, les salariés. Aujourd'hui, admettons, voilà, il y a une entreprise qui a une quinzaine ou une vingtaine de salariés. Les salariés vivent à proximité dans un périmètre de 20 km de l'entreprise. Il pourrait y avoir un tarif préférentiel du surplus d'électricité qui serait produit par cette entreprise-là pour ses salariés, ou admettons des salariés en mode de déplacement avec des véhicules électriques, l'entreprise souhaite à cet effet installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Ces bornes de recharge-là seraient à disposition, pourraient être mises à disposition pour les salariés, un tarif préférentiel aussi. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être mises en place autour de ça, et pour les salariés et pour les attirer au sein de leur entreprise aussi, et les faire rester.
Donc, on a parlé d'un certain nombre d'avantages hein, par rapport à ce modèle. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Je réponds. Les avantages, en fait, ils sont à plusieurs points de vue. On peut regarder donc du point de vue du producteur. L'idée, c'est quand même, dès que ces surplus, ils les vendent un tout petit peu plus cher que ce qu'il peut vendre aux obligations d'achat sur le réseau à EDF ou autre. L'idée, c'est aussi que du côté du consommateur, il y a une petite économie qui soit faite. Et puis surtout, en fait, parce que les tarifs en fait de l'électricité de réseau varient tout le temps, etc. Donc en 2022, c'était hyper intéressant. Aujourd'hui, les tarifs de réseau ont baissé. Donc ça peut l'être un peu moins, ça peut être équivalent. Mais surtout, ce que la proposition qui est faite, c'est que quand on produit avec du solaire, on a déjà fait la dépense. On sait déjà combien le kilowattheure il va coûter pendant 20 ans. Donc on peut garantir un prix stable pendant 20 ans. Et en fait, c'est ça. On dit aux gens, finalement, on va vous couvrir, couvrir 20% de votre facture. Et ces 20%-là, vous êtes sûr que ça ne bougera pas, quels que soient les aléas des marchés, de l'énergie, etc., comme on a connu avant. Donc voilà, ça c'est du point de vue strictement, on va dire, intéressé économique, côté producteur, côté consommateur. Après, du point de vue territorial, il y a un intérêt général, collectif, et c'est aussi la raison pour laquelle c'est les collectivités aussi qui initient ça. C'est qu'on va garder la valeur ajoutée sur le territoire, on va pouvoir effectivement avoir des tarifs différenciés, etc. Donc faire éventuellement, on peut imaginer à terme des politiques sociales contre la précarité énergétique, etc. Autour, grâce à ça. Et puis on va créer ce lieu d'échange autour d'un projet concret et où finalement, aujourd'hui, on va parler panneaux solaires, énergie renouvelable, etc., etc., électricité, mais peut-être demain, ce collectif-là qu'on constitue va pouvoir aborder la question de la transition énergétique sur bien d'autres aspects. Jean-Luc a parlé des questions de sobriété, d'économie, etc. Donc voilà, c'est le début de quelque chose, d'une réappropriation locale et multi-acteurs des enjeux de transition énergétique.
Si je pouvais compléter sur ce point, c'est, tu as dit réappropriation et puis maintien sur le territoire de la valeur ajoutée. Alors c'est vrai, mais notamment si non seulement on a une boucle d'autoconsommation, qui est en fait un contrat qui relie les consommateurs et les producteurs de façon directe, un peu comme une AMAP maraîchère où on a un lien direct, mais c'est d'autant plus vrai si le financement et les constructeurs des centrales sont des collectifs citoyens, donc comme c'est le cas par exemple de la SAS Seven Durable, de façon à ce que l'ensemble des retombées, des éventuels dividendes, etc., restent sur le territoire. Et donc notre logique, c'est aussi une logique citoyenne, c'est-à-dire de favoriser au maximum ce genre d'initiative, plutôt que des grandes multinationales qui vont venir installer des centrales solaires pour faire partie d'une boucle locale. Parce que là, du coup, on perd une grande partie de l'intérêt de cette logique territoriale.
Et ce que je voulais rajouter encore, oui, sinon...
Moi, je voulais intervenir parce que l'idée, au départ, c'est bien notre autonomie de production d'électricité. C'est-à-dire qu'on en soit maître. C'est la volonté vraiment des collectivités auxquelles j'appartiens. C'est-à-dire que, et quand on a créé en 2014 Seven Durable, c'était aussi ce dispositif. C'était l'idée de nous investir et de nous produire et de nous maîtriser le système. C'est ça. Et pas qu'il aille ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a bien une volonté des collectivités qui se rassemblent autour de Seven Energy, collectivités que ce soit citoyennes ou collectivités locales, c'est de maîtriser notre dispositif et surtout pas de le faire partir à quelqu'un d'autre. Quoi.
Voilà. Et donc, et je terminerai avec le côté social, pas seulement effectivement en faisant des tarifs, mais aussi le fait que pour démarrer ces boucles d'autoconsommation, en fait, on va inviter autour de la table tous les producteurs, tous les consommateurs. Et donc, nous, l'idée qu'on a, en particulier avec la démarche MAB au niveau du syndicat des Hautes-Vallées-Sévenol, c'est aussi que les gens se reparlent et d'arriver à recréer un lien social sur le territoire. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est très fort et qui est vraiment important et qui permettra aussi, du coup, de donner envie, finalement, de revenir sur le territoire, de faire partie de ce collectif. Ça, c'est quelque chose qui est important.
Mathias Ruiz, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ces avantages ?
Ben les avantages, voilà, tout a été à peu près évoqué. Ben voilà, c'est tout simplement rappeler, voilà, que c'est l'objectif entre le producteur et le consommateur. Les producteurs et les consommateurs, ça va être d'avoir une méthode gagnant-gagnant avec une possibilité de. Enfin, l'objectif, c'est de maximiser l'autonomie énergétique du secteur, bien entendu, et de créer, voilà, une énergie verte locale. Et l'objectif, ça va être de réunir tout le monde autour de cette table pour créer ces boucles-là.
Il y a un petit point, mais qui est peut-être conjoncturel actuellement, c'est qu'il y a une baisse très forte des tarifs de rachat, d'obligations d'achat sur le réseau, qui sont à 4 centimes, et qui sont en fait et qui sont très dissuasifs pour la mise en place d'une centrale solaire si on compte que si on fonctionne en revente totale. Donc maintenant, quelqu'un qui veut mettre en place, un particulier qui veut mettre en place une centrale solaire sur sa toiture, en fait, s'il ne rejoint pas une boucle d'autoconsommation pour optimiser à la fois son autoconsommation et en permettant notamment une revente à des voisins et en évitant donc de revendre sur le réseau, eh ben ça présente plus vraiment d'intérêt financier pour lui. Ça devient vraiment un acte très militant. Donc alors rejoindre une boucle d'autoconsommation, c'est un acte militant et en même temps d'intérêt financier actuellement.
Alors on a aussi une contradiction aujourd'hui maintenant, parce que même les investisseurs qui faisaient des installations solaires sur les bâtiments agricoles notamment aujourd'hui, se retournent vers Seven Energy pour voir à quel prix on pourrait leur acheter, puisque EDF ne leur promet plus monts et merveilles. Donc ils se retournent vers nous pour savoir si on pourrait leur racheter leur production. Donc on est un peu surpris de la démarche, mais enfin, parce qu'elle n'a rien de citoyenne. Mais ces investisseurs-là sentent qu'ils vont perdre la main sur le dispositif et ils se retournent vers nous. Alors c'est vrai que ça peut être aussi une soupape de sécurité pour nos boucles, parce que dans certaines boucles, on a à faible marge au niveau de la capacité de kilowatt crête. Donc on se dit, c'est pourquoi pas. Donc on est en train de réfléchir si on les accepte ou pas. Voilà.
Donc on parle depuis tout à l'heure de boucles, donc de boucles de 20 km, donc sur un territoire, donc, bon, dans un village, voilà. Mais en pleine campagne, est-ce que ce n'est pas un frein justement au développement de ces boucles quand on connaît voilà, la densité dans les Cévennes?
Alors, il faut dire que tout le réseau Enedis appartient à tous les citoyens. Donc, simplement, on a donné en concession à une époque le réseau à Enedis. Enfin, ça, avant, ça ne s'appelait pas Enedis, ça s'appelait autrement. Et donc, on peut en bénéficier. Donc, le principe de la boucle, c'est de passer la personne morale organisatrice, donc Seven Energy là, avec la SAS, va passer une convention avec Enedis pour utiliser les services d'Enedis, et on va leur donner des clés de répartition. Alors c'est pas très... Donc c'est très virtuel, c'est-à-dire qu'on va donner à Enedis, monsieur un tel producteur pourra desservir monsieur un tel consommateur. Voilà, tout ce système-là est difficile à mettre en place, mais ça peut se faire entre deux points de 20 km.
Oui, pour répondre à ta question, alors déjà, les 20 km, donc, c'est à vol d'oiseau hein, entre deux participants. Donc quand on regarde sur une carte, ça couvre quand même déjà pas mal de territoire.
Des grands périmètres.
En tout cas, plus que quand on prend la route.
Ben voilà.
C'est déjà dérogatoire, en fait. C'est-à-dire que la réglementation de base, c'est deux.
À deux.
C'est deux. Donc il faut effectivement, donc la loi a prévu la possibilité de déroger pour faire 20 km pour tenir compte justement de cette question de densité. Mais effectivement, à un moment donné, il faut atteindre quand même un certain volume de production et de consommation pour que, notamment, pouvoir. Il y a des frais quand même de gestion, etc. Il faut gérer les relations entre les uns et les autres, les relations avec le gestionnaire du réseau, les facturations, etc. Donc il y a des petits frais de gestion. Et à un moment donné, ça pèse trop lourd si on est trop petit, quoi, en nombre de participants et en volume d'électricité. Donc oui, la question de la densité, enfin plus finalement du nombre de participants à l'opération, peut s'avérer être problématique à un moment donné. Et d'où l'intérêt aussi, du coup, d'être ouvert à tous les consommateurs potentiels dans un milieu, dans un territoire rural.
Puis l'idée aussi de faire une péréquation, en fait, des coûts de fonctionnement de la PMO sur plusieurs boucles et pas sur une seule boucle. C'est vrai que si on travaille que sur une seule boucle, il vaut mieux travailler qu'avec du volontariat parce que sinon, ça ne marchera pas, quoi.
Et ce qui est important aussi, c'est la communication. Hein. Donc là, c'est intéressant qu'on puisse faire cette émission. Mais moi, dans les réunions publiques, je le vois, les gens n'en entendent pas forcément parler de bouche à oreille. Et il faut vraiment comprendre le principe. C'est pas si simple que ça. Et une fois qu'on a compris, on se dit, c'est super. En fait, tout le monde est gagnant dans cette opération. Et donc, on peut rejoindre l'opération. Donc, c'est vraiment la communication là qui est le nerf de la guerre dans l'histoire.
Donc Michel Bonnet en parlait il y a quelques minutes, la partie administrative. Alors, il faut créer une structure et les producteurs et les consommateurs, enfin surtout, j'imagine même les consommateurs sont adhérents de cette structure. Comment ça fonctionne?
Alors, la première démarche, c'est de prendre la décision d'être une PM ou une personne morale organisatrice. Donc ça, c'est pas évident. Ça peut pas être une collectivité toute seule. Elle peut l'être pour ses services à elle, mais pas pour de multi-partenaires comme on est. Donc c'est vrai que quand la SAS Seven Durable a réfléchi à ça, elle l'a soumis à son assemblée générale et ça a été voté à l'unanimité, d'accord. Mais après, pour rentrer à Seven Durable, il suffit d'acheter une action à 50 euros, c'est pas très compliqué. Il y a des actionnaires qui en ont beaucoup plus, mais enfin ça c'est... Mais il suffit de rentrer. Et si vous voulez rentrer dans la boucle, c'est le même système. C'est-à-dire que vous prenez une action à Seven Durable. Donc c'est pour la durée, pour toute votre vie, si vous voulez. C'est pas une cotisation annuelle. C'est vous payez que ça. Voilà. Après, pour faire une boucle. Là, pour faire une boucle dérogatoire, comme l'a dit Julien, il faut quand même demander l'autorisation à l'État. Donc c'est ce qu'on a fait, nous, en décembre dernier. Et on a fait partir fin décembre. On a eu les réponses, on a eu deux réponses en février, deux autres réponses fin mai, voilà. Donc sur les cinq boucles demandées, c'était le même service qui les instruisait, mais ils ont été occupés à autre chose, je crois. Et il y avait la prime Rénov qui les occupait particulièrement. Donc ils nous ont répondu tardivement, mais ça n'a pas eu de difficulté. C'est-à-dire le dossier qu'on leur a présenté, qui est quand même un dossier un tout petit peu technique quand même, n'aura pas suggéré des questions ou nous faire exclure tel ou tel. Après, la mise au point final, c'est quand même bien avec les services d'Enedis. Donc on a une correspondante d'Enedis qui suit notre action et qui, sur des points litigieux, par exemple la notion de 20 km, ça peut être 22 km, quoi, hein, ça peut...
Oui.
C'est pas au millimètre près quand même, hein.
L'essentiel, c'est d'être dans les communes qui ont été déclarées comme faisant partie du périmètre, voilà. Donc qui ont été autorisées par l'État, puisque c'est directement le ministère de l'Énergie qui traite de ces sujets-là.
Ouais, juste un petit complément sur le montage administratif pour préciser que, donc effectivement, il y a cette personne morale organisatrice, donc ça peut être la SAS Seven Durable, ça peut être une autre structure, peu importe le statut. Donc elle gère qui fait partie ou qui sort de l'opération, elle fait la relation avec Enedis. C'est tout. Par contre, tout ce qui est facture, enfin, elle ne collecte pas l'argent des consommateurs pour la redistribuer aux producteurs. Hein. La facturation se fait en direct, et c'est directement le paiement de la facture du consommateur va directement au producteur.
Alors, une petite précision, la PMO, quand elle fait sa demande de dérogation, est responsable vis-à-vis de l'État de cette dérogation. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi. Et la PMO est quand même comme un syndic d'immeuble. Elle gère la vie collective d'un ensemble de consommateurs et de propriétaires de l'énergie. D'accord. Donc c'est elle, elle ne fait pas la facture en son nom, elle établit les factures pour le compte d'eux. Voilà.
Ouais, parce qu'en fait, on parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle en fait ? C'est finalement, si on veut vraiment ça, c'est pas une structure technique, c'est un ensemble de conventions juridiques en fait, qui sont passées entre les producteurs et les consommateurs avec ce qu'on a appelé cette structure qu'est la PMO qui sert d'interface avec le réseau en fait. Et qui gère un peu les entrées-sorties et qui joue ce rôle de syndic. Mais à la base, ce sont des contrats, c'est ce qu'on peut appeler une couche juridique. Vous avez le réseau, vous avez les compteurs Linky des différents partenaires, et vous avez cette couche juridique qui forme cette boucle. Voilà, c'est là qu'il faut essayer d'assurer une certaine cohérence dans la boucle entre les différents contrats qui vont être passés par les consommateurs et les producteurs, de façon à ce qu'il y ait une certaine cohérence, notamment au niveau des tarifs, pour éviter que dans une même boucle, on ait des tarifs très différents. Mais voilà, mais sinon, il y a une liberté contractuelle qui est à la base quand même du système de la boucle.
Et je crois qu'il est important quand même de préciser, hein, c'est qu'on est obligé de garder un abonnement traditionnel à un fournisseur d'électricité. Ça ne peut pas remplacer l'ensemble, puisque, encore une fois, là, on alimente avec des panneaux photovoltaïques. Donc on n'a pas, nous, d'énergie produite la nuit. Donc il faut continuer à avoir le double contrat. Et tout ce qui est, par exemple, taxe d'utilisation du réseau public d'électricité, la fameuse TURP, elle est payée, en fait, au fournisseur traditionnel d'électricité. Elle n'est pas collectée dans l'opération d'autoconsommation collective.
Mathias Ruiz, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Alors, ben, tout simplement rappeler que c'est un projet, enfin, les projets de boucle d'autoconsommation collective sont des projets très intéressants. Ils permettent, voilà, plusieurs choses. Donc, de la création de valeur sur le territoire, donc en produisant de l'énergie verte sur le territoire, voilà, favorise la résilience énergétique du territoire aussi, favoriser l'autonomie énergétique, et mettre tout le monde autour de la table, comme j'ai pu le rappeler tout à l'heure. Que ce soit les collectivités, mais aussi les entreprises. Hein, je tiens à rappeler que les entreprises qui sont intéressées par ce type de projet peuvent me contacter pour réaliser, voilà, des études. Et ensuite, on pourra intégrer ces entreprises-là aux boucles qui vont se déployer dans les Cévennes. Voilà. C'est ce que je voudrais rappeler. Et je voulais rappeler quelque chose aussi. Dans les territoires hyper ruraux, donc voilà, le rayon de 20 km, c'est quand même un périmètre qui est très important, surtout dans les Cévennes. Après, il peut aussi y avoir la question d'extension de réseau sur certains projets auxquels on peut faire face. Voilà. Et après, ça, c'est avec les services d'Enedis qu'on peut voir ça. Voilà.
J'aurais une dernière question. Comment finance-t-on l'achat de panneaux photovoltaïques ?
Alors aujourd'hui, pour l'achat de panneaux photovoltaïques, il y a certains établissements bancaires qui proposent du financement vert. Alors au niveau des subventions publiques, mis à part aujourd'hui le tarif d'obligation d'achat sur 20 ans qui est en train de largement diminuer et une certaine instabilité autour de ce tarif-là, aujourd'hui voilà, l'État se désengage un peu sur ce volet-là et essaie de favoriser justement les projets d'autoconsommation collective. Qui sont en train de se déployer. Voilà, il y a les établissements bancaires qui proposent des financements verts, des prêts à taux bonifiés pour accompagner ces types de projets-là.
Pour les agriculteurs, par exemple, qui ont besoin de bâtiments, il y a également la possibilité de faire appel à un tiers investisseur. Donc il y en a un certain nombre sur le marché qui proposent l'installation d'un bâtiment de type bâtiment agricole avec un certain nombre de modèles prédéfinis et qui finalement gardent la possession de la toiture photovoltaïque et mettent à disposition le bâtiment à l'agriculteur. Donc ça, c'est un moyen d'avoir un bâtiment avec une toiture photovoltaïque Et nous, donc ceux qui avec lesquels on a travaillé, comme le disait Michel tout à l'heure, nous proposent de revendre leur énergie dans la boucle d'autoconsommation collective. Donc ça, c'est assez intéressant pour nous.
Alors après, il y a pour les collectivités locales dans notre département, je dis bien dans notre département, c'est pas vrai dans le Gard, elles peuvent bénéficier de subventions de l'État pour l'investissement et l'installation de centrales photovoltaïques.
Et pas dans le Gard ?
Non.
Et pourquoi ?
C'est comme ça, la DETR dans le Lozère n'est pas la même que dans le Gard.
Et c'est que pour de l'autoconsommation.
C'est important parce que ça représente une subvention de 40% d'investissement quand même.
Oui, c'est pas rien.
Donc, c'est vrai qu'avec l'ancien préfet, M. Castaner, on avait beaucoup travaillé sur ces sujets-là.
Mmh. C'est vrai qu'une subvention de l'État, enfin,
Florac en a bénéficié.
En a une, ouais. Ouais.
Saint-Michel de Dez en a eu une.
Du coup, quand on fait le bilan, après, on regarde combien coûte la production derrière du kilowattheure. Ça permet de faire baisser les prix.
Ça permet de faire chuter énormément le prix. Par contre, l'EDF nous rachète, nous, sur la nouvelle centrale qu'on a faite, nous rachète à 4,57 centimes, un truc comme ça. Mm. Donc rien par rapport à l'autre toiture qui produit.
Donc on a intérêt à se mettre dans une boucle.
Ouais, par contre, quand on aura fini notre contrat sur la toiture de l'école, c'est-à-dire en 31, bah, cette toiture, elle passera dans la boucle. Voilà.
Très bien. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter un dernier mot ?
Bah, moi, je voulais bien, concernant Florac, et suivant ce qu'a dit Jean-Luc Richter, le nerf de la guerre, c'est la communication. Donc, on va, pour le moment, on a fait quelques communications sur la boucle de Florac, mais on n'a pas encore fait de grandes réunions publiques parce qu'on voulait avoir des éléments concrets. Donc là, on est en train de rassembler ces éléments. Donc, il y a déjà des citoyens et des entreprises qui ont manifesté leur intérêt. Donc, n'hésitez pas à aller voir la mairie, à envoyer des messages pour dire que vous êtes intéressé pour entrer à la boucle, soit en tant que producteur, soit en tant que consommateur, soit en tant que locataire de toiture pour un tiers investisseur.
Et sur ces mots, je vous propose de clôturer cette émission et merci à tous pour votre participation. À la prochaine.
Merci.
Merci. Merci.
C'était Séquence Parc. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes, un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi, à 8h30.
Séquence Parc sur le 107 FM.